L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Circuit des 24 heures du Mans sous un soleil de plomb. Le départ de la course d'endurance la plus célèbre du monde a été donné il y a plus de 4 heures. Au volant de la Porsche 936 numéro 3, Henri Pescarolo est dans la ligne droite des Hunaudières. Lancé à plus de 300 km par heure, le pilote français a le regard fixé devant lui. Le jour commence doucement à décliner. Bientôt viendra la nuit et son lot d'événements imprévus. Sous son casque, une transpiration abondante tombe devant ses yeux. Pas de quoi le perturber. L'homme est un des meilleurs pilotes de sa génération. Mais Le Mans est une course on ne peut plus difficile. Une des plus exigeantes de la planète pour les hommes comme pour les machines. Cette année, le duel s'annonce serré entre les Français d'Alpine Renault et les Porsche. Les 936, fiables, ont gagné l'an dernier. Et l'écurie allemande n'est pas prête à lâcher son trône sans coup férir. Pourtant, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Peu après ces 4 heures de roulage, la 936 numéro 3, la voiture de Pescarolo, casse. Abandon. Sur les 3 Porsche en lice au départ, il n'y en a plus qu'une capable de ramener le trophée en Allemagne. Comble du malheur. Elle est larguée au classement et se retrouve loin derrière, à une quelconque 41e position. Ce défi ressemble, en tout point, à une mission impossible. Et ça tombe bien. L'impossible, l'improbable, c'est la spécialité du coéquipier de Pescarolo. Alors la team au pied du mur va tenter un incroyable coup de poker. Faire rouler ce pilote dans la seule voiture encore en piste. Le nom du super-héros qu'on appelle à la rescousse, Jacques X, Monsieur Le Mans. Nous sommes le 11 juin 1977. Il est un peu plus de 20 heures et c'est l'heure H de mon histoire. Jacques X est déjà un triple vainqueur des 24 heures. Le Mans, il l'a dompté. En 1969, il l'a remporté en s'opposant fermement aux conditions de départ. Alors que les autres couraient comme chaque année et partaient à toute berzingue sans leur harnachement de sécurité, Jacques, lui, a marché. Il a pris son temps et il s'est attaché correctement, quitte à partir bon dernier. Au bout de l'effort, et après un scénario digne d'un véritable film, il a remporté pour une poignée de secondes sa première couronne dans la Sarthe. Les exploits, le Belge sait comment les provoquer. Il fait son job et surtout, il n'abandonne jamais rien. Alors, lorsqu'il prend les commandes de la Porsche 936 numéro 4, qui se trouve en queue de peloton, X sait ce qu'il a à faire. Piloter du mieux possible. Dans le paddock allemand, les regards sont bas, les soupirs nombreux. Alpine Renault, en tête depuis le départ avec des pilotes de renom, dont Jean-Pierre Jabouille, va rafler la mise. Tout est foutu. Il n'y en a qu'un qui croit en ses chances. Jacques X. Il ne faut que quelques tours au champion pour prendre possession de son nouveau bolide. Il entre en état de grâce. Les planètes s'alignent. En passant devant Maison Blanche, le pilote comprend que quelque chose de particulier est en train de se passer. Aujourd'hui, dans la nuit noire du Mans, il va se sublimer. Mieux, un miracle va se produire. Le règlement de la course est pourtant clair. Un pilote ne peut pas conduire plus de 14 heures sur les 24 que dure l'épreuve. Eh bien, pas de problème. Le Belge va respecter les règles. Et il va se reposer les 10 heures imposées. 10 heures. Pas une minute de plus. Relais après relais, la magie opère. X place ses trajectoires de manière idéale. Il ne fait qu'un avec un véhicule qui ne laisse pas le droit à l'erreur. Dans les stands, bientôt les différentes écuries commencent à hausser un sourcil. La sienne comprise. ses coéquipiers reprennent espoir. Heure après heure, la 936 de Jacques Hicks remonte au classement, alors que tout semblait perdu. Le pilote fait une remarquable percée dans la nuit. L'obscurité se gorge de lumière. C'est celle de sa Porsche, véritable étoile filante sur le bitume du Mans. Après 12 heures de course, à 4 heures du matin, le classement parle de lui-même. Derrière les deux Alpine Renault, la 936 vient de monter sur la troisième marche du podium. Un exploit retentissant, loin d'être suffisant. Comme à son habitude, Jacques Hicks ne souhaite qu'une chose, rafler la victoire. Sa prochaine cible, le proto piloté par Depailler et Lafitte. Pourtant, les deux voitures de tête sont encore loin. Ce qui n'empêche pas Hicks et ses compères de se lancer à leur poursuite. Pour le Belge, il est plus aisé d'être en position de chasseur que de chassé. Il va se déchaîner. Au lever du jour, un souci mécanique majeur vient contrecarrer les plans de l'Alpine en deuxième place. Hicks la rattrape et la double. Seulement pas de miracle. Avec ses 5 tours d'avance, la voiture de tête ne peut plus être rejointe. Mais impossible. N'est pas Hicks. Le champion est bien décidé à ne rien lâcher. Le soleil se hisse dans le ciel et à 9h, nouveau miracle pour Porsche. La voiture de tête casse son moteur. Pour elle, c'est la fin de la course. La 936, en embuscade, prend la tête et creuse l'écart. Son plus proche poursuivant, alors qu'il ne reste qu'une heure à tirer. Et bientôt lourdé à près de 20 tours. Absolument incroyable. Mais la firme allemande n'est pas au bout de ses surprises. Voilà qu'un de ses cylindres se grippe et oblige le pilote à repasser longuement au stand. Heureusement, il est irrattrapable et après cet énième coup de stress, vient enfin la délivrance. Jacques Hicks devient une nouvelle fois le héros des 24 heures du Mans. Il s'empare pour la 4e fois des lauriers de la victoire. Le champion prouve, s'il le fallait encore, qu'il est comme chez lui dans la Sarthe. Ce succès, qu'il va juger lui-même comme étant le plus beau de sa carrière, est à l'image de cette dernière, plein de détermination et de résilience. Doté d'une incroyable force de caractère, Hicks est un pilote hors norme. Rien ne le prédestinait pourtant à devenir l'un des sportifs les plus titrés de sa génération. Au fond, sa vie est comme un tableau, un enchevêtrement de contrastes, d'ombres, mais aussi de lumière, beaucoup de lumière. Hicks n'a jamais abandonné. Il a trouvé sa voie pour devenir, sans conteste, l'un des plus grands champions de notre histoire. Une histoire qui commence le 7 juillet 1968. Sous une pluie battante, le Grand Prix de France de Formule 1 vient de démarrer. Les quelques 45 000 spectateurs tentent de distinguer les monoplaces qui se feraient un chemin entre les gouttes. Il y en a une plus que les autres qui parvient avec brio. Pilote officiel Ferrari depuis le début de la saison, Jacques Hicks, dans son baquet rouge, martyrise ses adversaires. Le gamin est un as sous la pluie, lui qui a appris à maîtriser la sensibilité des pistes humides lorsqu'il était pilote moto. Ce début de course, dans des conditions dantesques, est on ne peut plus dangereux et imprévisible. Au volant de sa Honda, Joe Schlesser, 40 ans, va l'apprendre à ses dépens. Le pilote français a accepté l'impensable, tester en conditions réelles un nouveau modèle de Formule 1 que d'aucuns jugent dangereux. La voiture, peu performante, est larguée dès les premiers moments de la course. Troisième tour, Schlesser perd le contrôle de sa monoplace dans une courbe et vient s'écraser dans le talus. Avec 200 litres d'essence dans le réservoir, le brasier est instantané. Le pilote français meurt dans l'incendie. Jackie, engoncé dans son baquet, enchaîne les tours comme un damné. Sa première victoire en Formule 1 lui tend les bras. Mais son moral n'est pas au beau fixe. 1968 est une année terrible pour la Formule 1. En moins de 3 mois, Jim Clark, Mike Spence et Ludovico Scarfiotti ont perdu la vie au volant de voitures de course. Au cœur de ces 60s galopantes, la mort fauche les vies des champions comme les blés. S'il y pense, le pilote Ferrari ne fait pas non plus une fixette là-dessus. Si on se sent paralysé par le danger, alors c'est qu'il faut tout arrêter. Au terme des 60 tours, après une course de haute volée, le jeune Belge passe la ligne d'arrivée en grand gagnant. Il ira déposer son bouquet sur le talus meurtrier, là où est mort son collègue au début de l'épreuve. Tout un symbole. Jacques Hicks entre dans le cercle très fermé des vainqueurs de Grand Prix de Formule 1. Une performance exceptionnelle et inattendue lorsqu'on connaît le début de son parcours de vie. L'histoire de Jackie débute alors que le monde est encore en plein cauchemar. Le futur pilote est né le 1er janvier 1945. Cette année particulière marque le retour de la paix et de l'espoir. C'est son père, journaliste auto, qui lui fait découvrir l'univers des engins motorisés. Hicks Senior est l'un des pionniers lorsqu'on parle de motocross en Belgique. Son grand frère, Pascal, met les deux pieds dans le monde de la course auto. Il va notamment remporter les 24 heures de Spa en 1965. Avec sa première voiture à pédales, une Austin, Jackie bourlingue dans son quartier de Bruxelles dès ses 6 ans. Le jeune garçon comprend très tôt que l'école ne va pas lui convenir. Le cadre scolaire, trop étriqué, n'est pas fait pour lui. Mais il ne s'imagine pas devenir pilote. Un comble. Lorsqu'on sait ce qu'il a pu réaliser derrière un volant.
Personnellement, dans ma jeunesse, eh bien, j'ai vécu une jeunesse extrêmement heureuse. Très, très heureuse même. Et j'ai été relativement insouciant et je dois dire que je n'ai jamais eu aucune passion particulière pour prendre un métier tel que médecin ou pilote. J'aimais beaucoup la nature, j'aimais beaucoup être libre et j'aimais pas de tout la liberté. Et je dois dire que le problème du métier plus tard ou de l'avenir ne m'intéressait à ce moment-là pas du tout.
Mais les chiens ne font pas des chats. Ses parents lui offrent une petite 50. Une moto qui lui permet de prendre le départ de quelques courses. Pour Jackie, c'est une révélation. Lui, le dernier de la classe, parvient à se hisser rapidement vers les premières marches du podium. À l'âge de 16 ans, en obtenant son diplôme de fin d'études secondaires, il est autorisé à quitter définitivement les bancs de l'école. Débarrassé du carcan scolaire, il se jette à bride abattue dans la pratique du trial. La moto devient sa raison d'être. Il s'entraîne beaucoup et continue d'obtenir des résultats probants. Enduro, vitesse, il enchaîne les disciplines dans sa catégorie 50 et s'y sent de plus en plus à l'aise. Tant et si bien que Jackie attire le regard des pros du secteur. En 1962, il a 17 ans lorsqu'il signe son premier contrat de pilote moto professionnel. Pas de quoi pavoiser. Le milieu est encore très amateur. Mais il n'empêche, le jeune homme a trouvé sa voie. S'ouvre devant lui une période où les expériences se multiplient. À moto, mais pas seulement. Jackie se retrouve derrière le volant de voitures de course, parfois en catégorie tourisme, mais aussi en Formule 3 et en Formule 2. Chaque fois, son coup de volant impressionne les suiveurs. Ah, c'est sûr, ce gamin a quelque chose. BMW, Cortina Lotus pour Ford Belgique, Mustang. Les opportunités qu'il obtient grâce à ses chronos souvent impressionnants et réguliers lui permettent d'intégrer le petit monde des pilotes pro automobiles. Jackie va alors délaisser la moto pour se concentrer uniquement sur les courses automobiles. Au début de sa vingtaine, Jackie commence à se faire un nom dans le milieu. En 1965, il termine sur la deuxième marche du podium lors des 24 heures du Nürburgring. Il dompte le circuit mythique allemand au volant d'une Ford Mustang. L'année suivante, avec une Ford Cortina Lotus, le gamin de Bruxelles remporte l'épreuve. La même saison, avec une BMW, il rafle les 24 heures de Spa. À chaque étape, la chance croise le talent. Et les rencontres adéquates permettent aux jeunes Belges de progresser, encore et encore. Sa professionnalisation passe par un certain Ken Tyrrell, patron d'une écurie de course britannique. Durant les 60s, la team s'est fait une place dans le gratin. Là encore, les concours de circonstances vont permettre à X de forger la suite de sa carrière. C'est lors d'une course à Budapest que Tyrrell lui offre une possibilité en or. Courir pour lui en monoplace. Seulement Jackie, qui vient de fêter ses 20 ans, doit partir pour son service militaire. Il n'a pas le choix. Il doit servir sous les drapeaux et mettre son ascension entre parenthèses. Coup d'arrêt dans une carrière au bord du décollage. X refuse l'offre de Tyrrell, mais le patron d'écurie est un homme particulier, un véritable dénicheur de talent. Lorsque Jackie termine son service militaire, le British revient à la charge. Jackie accepte et va tisser avec Ken Tyrrell un lien unique. Le patron d'écurie devient, à bien des égards, un véritable mentor pour le jeune homme. Il faut dire qu'à l'époque, le monde du sport auto est très différent de la réalité actuelle. Les écuries d'alors sont financées par des privés passionnés. Tyrrell, avant de faire rouler des matras sur les circuits mondiaux, est un exploitant forestier. Jackie raconte d'ailleurs pour l'excellent podcast Dans la boîte à gants que le hangar de stockage des monoplaces se trouvait au milieu des camions, sur terre battue. Un autre monde, assurément. Le point de bascule dans la carrière de X reste la saison 1967. Au volant de sa Matra en F2, il bouscule les pros. Lors des essais du Grand Prix d'Allemagne au Nürburgring, l'un de ses circuits fétiches, il écrase la concurrence, battant au chrono la plupart des monoplaces de Formule 1. Sa Matra fait des miracles et lui ouvre de nouvelles portes. En endurance, il remporte les 1000 km de Spa, une épreuve mythique. Ses résultats dans cette catégorie sont aussi particulièrement probants. Sa saison au volant de sa Matra et quelques courses de F1 disputées avec Cooper attirent le regard d'un ponte des monoplaces, un certain Enzo Ferrari. La marque au cheval cabré se cherche un nouveau pilote au début de la saison 1968. Bien avant X, le truculent italien pense à recruter un certain Stewart. Mais les négociations contractuelles se passent mal. Le patron d'écurie ne tergiverse pas et propose à la place un contrat à X. Le Belge accepte. Cela marque le début d'une incroyable aventure. Il faut bien être conscient de la mesure de l'exploit. Devenir pilote officiel Ferrari à seulement 23 ans, c'est pas donné à tout le monde. À la veille d'une course à Monaco en 1968, Jackie témoigne de l'ambiance qui règne entre les pilotes.
Je dirais qu'il y a des groupes, hein. Ça va par écurie. Moi, je m'entends très bien avec les Français, mais en général, chacun reste sous sa position parce que malgré tout, on reste adversaires. On est excellents amis, j'ai vraiment de très bons copains, des gens comme Beltoise et Stewart, tout ça. On s'entend bien, on dîne ou on déjeune ensemble éventuellement. Mais enfin, ça ne va pas plus loin.
Et dans votre hôtel, vous êtes seul pilote ou il y en a d'autres?
Non, il y a Beltoise. Dans mon hôtel, il y a plusieurs pilotes.
Oui, et vous voyez
le
soir?
On se voit le soir, on se voit le matin, on se voit le midi, on se dit bonjour, comment ça va? Mais on ne fraternise pas autre mesure parce que malgré tout, ça reste une lutte. C'est une lutte d'individus.
C'est ça.
Jackie X connaît son premier podium à domicile, à Spa, avant de remporter sa première victoire en France. La saison terrible, durant laquelle décèdent plusieurs pilotes du peloton, s'achève avec le sacre de Graham Hill sur Lotus devant Stewart. Jackie, lui, termine à la 4e place du championnat, après avoir connu de nombreux pépins mécaniques. La mort est partout, en Formule 1 comme ailleurs dans le sport auto, mais X peut compter sur une bonne étoile pour s'en sortir. Lors du Grand Prix du Canada en 1968, il est victime d'un accident. Sa pédale d'accélération se bloque. Il écope de plusieurs fractures, mais échappe au pire. Saison après saison, le Belge commence à se faire une place dans le gratin. Sa grande dextérité, notamment sous la pluie, lui permet d'être considéré comme un des plus grands pilotes du moment. Pour autant, le jeune homme n'est qu'au début d'un invraisemblable parcours. Plus encore qu'un bon pilote de monoplace, il va exceller en endurance et devenir, pour tous les fans de sport auto, Monsieur Le Mans, rien que ça. Juin 1969, circuit du Mans. Pour la 37e édition des 24 heures, les écuries ont mis les petits plats dans les grands. Parmi les participants qui vont prendre le grand départ, Jackie X fait face à sa voiture comme tous ses concurrents. La Ford GT40, dont il partage le volant avec Jackie Oliver, brille sous un soleil ténu. Mais la grande favorite cette année s'appelle Porsche. Les Allemands viennent de sortir une machine de guerre, la 917. Dans le paddock, ils sont nombreux à dire que l'écurie va écraser la concurrence. X le sait. Au Mans plus qu'ailleurs, tout est possible. L'épreuve reine de l'endurance se distingue des autres courses de nombreuses manières. La première d'entre elles, la procédure de départ. Les pilotes doivent courir jusqu'à leur véhicule, tenter de mettre leur ceinture le plus vite possible et démarrer en trombe. Une ineptie en matière de sécurité. Lancés à plus de 300 km par heure dans certaines zones du circuit, les participants doivent parfois réaliser tout le premier relais sans être attachés convenablement. Une pure folie. Le pilote belge ne supporte pas ces manquements sécuritaires. Il veut marquer le coup, changer la donne. Alors qu'on donne le top départ de la course, que tous les pilotes tracent à toute vitesse vers leur bolide et que les premiers partent déjà, le Belge ne bouge pas. Enfin, ou plutôt, il avance en marchant. Oh, l'image est saisissante. Dingue même. Droit comme un i au milieu de la cohue formée par les autres véhicules, Jackie se dirige vers sa Ford à pas feutré. Il entre dans le véhicule, prend le temps de mettre son harnais avant de démarrer. Parti bon dernier, le pilote va mener une course d'anthologie de bout en bout. Face au monstre Porsche, Jackie va s'évertuer à opérer une remontée fantastique. L'anecdote est connue, mais au bout du bout, il remporte l'épreuve avec une très maigre avance. Le Belge fait une entrée fracassante dans l'histoire de la discipline. Le Mans va devenir son jardin. Par son geste symbolique, X va être à l'origine d'un changement de règlement. Les départs, comme on les a connus jusqu'alors, sont modifiés pour de bon. Cette modification intervient aussi parce qu'un pilote Porsche, sur une 917, se tue dès le premier tour de l'épreuve, prouvant, s'il le fallait encore, que la sécurité doit primer le plus possible sur le spectacle. À l'occasion d'une interview, M. Le Mans s'exprime au sujet des accidents qui jalonnent le parcours de tout pilote.
Venons-en à un domaine que vous n'aimez pas tellement aborder, celui des accidents. Pourquoi ?
Eh bien, parce que d'abord, un accident est une... est un incident extrêmement désagréable. Parce que les expériences que j'ai eues dans ce domaine ont été des expériences extrêmement malheureuses et que, moralement, j'en ai beaucoup souffert. Et troisièmement, parce que je reproche aux gens en général et à la presse de se précipiter généralement pour les nécessités de l'information et de nous jeter à la tête uniquement des catastrophes, des incidents, et que j'estime que la vie est trop courte que pour nous bombarder régulièrement avec des choses désagréables et que je préférerais ne voir que des choses agréables en fait, et que le désagréable, eh bien, nous sommes largement servis pour l'instant et que ça nous suffit comme ça.
Le récit de l'édition 1969 du Mans est digne d'un véritable film de cinéma. Envers et contre tous, en partant derrière ses adversaires pour marquer son opposition à la dangereuse procédure de départ, Jackie X remporte l'épreuve pour une poignée de secondes. Même si cela ne semble pas l'émouvoir plus que de raison.
Mais alors, vite un mot avant de terminer, mais l'émotion de la victoire, qu'est-ce que ça a fait pour toi ? Tu restes calme,
absolument,
flegmatique ?
Absolument calme et flegmatique. Une fois que c'est gagné, je crois que ça fait déjà partie du passé. Et la course à peine terminée, moi je pense à la suivante.
Dès lors, Jackie X entre dans la cour des très grands du sport automobile. En parallèle de l'endurance, il poursuit sa carrière en Formule 1, remportant 8 Grands Prix, ce qui, pour l'époque, est une performance notable. Lors de la saison 1969, il est même vice-champion du monde. Rebelote l'année suivante, où il manque de peu d'être sacré, terminant juste derrière Jochen Rindt. L'Autrichien qui se tue à Monza avant la fin de la saison devient le premier champion du monde en Formule 1 à titre posthume. Il ne manque que 5 points à Jackie pour ravir cette couronne. Mais dans la catégorie reine des monoplaces, sa chance est passée. Il va néanmoins continuer de piloter pour différentes écuries. Jamais un pilote belge n'a fait mieux que lui dans la discipline. Jackie X marque son époque, c'est indéniable. Mais au-delà de ses performances, le public découvre une personnalité humble.
Depuis plusieurs années déjà, vous êtes au premier plan. Est-ce que vous avez l'impression que le sport automobile et les responsabilités que vous avez dû prendre très tôt vous ont aidé à acquérir plus de maturité que les jeunes de votre âge ?
Bien, incontestablement, se trouver, jouer dans une pièce, et spécialement si la pièce est dangereuse, vous apprend à, et par les événements qui parcourent la pièce, en fait, ça vous apprend à vivre, ça vous apprend à décider, ça vous apprend à être prudent, et ça vous apprend surtout à envisager la vie comme une chose extrêmement aléatoire, et ça vous apprend par conséquent à en profiter au maximum.
C'est surtout en endurance que Jackie X va démontrer un incroyable talent et des capacités hors normes. Après son premier succès d'anthologie obtenu en 1969, il va devoir attendre quelques années avant de se rapprocher de la plus haute marche du podium. En 1970, au volant d'une Ferrari, il termine à la 19e place, puis rideau pour un temps. Pilote éclectique par excellence, Jackie X retente sa chance en 1975 dans la Sarthe. Au volant d'une Ford Gulf GR8, il est attendu au tournant. Une nouvelle magnifique course lui permet de glaner sa deuxième couronne au Mans. Légendaire. Ce n'est pourtant que le début. L'année suivante, c'est Porsche qui vient le chercher pour mener une de ses 936. Le bolide roule sur l'eau cette année-là et le pilote belge réalise un nouvel exploit en gagnant la course deux années de suite. Le tout avec deux écuries différentes. Convaincu que le projet Porsche est le plus adéquat pour obtenir des résultats probants, X prolonge son aventure avec la firme allemande. En 1977, Jackie est déjà un triple vainqueur des 24 heures du Mans. Mais pas de quoi le rassasier. Partageant son baquet avec le français Pescarolo, sa voiture connaît des problèmes mécaniques. Abandon puis changement de voiture. Il va alors faire une remontée fantastique de la 41e place jusqu'à la victoire. En remportant un quatrième succès, le troisième de suite, Jackie X marque de son empreinte le sport automobile. Son nom est gravé dans le marbre. Ce qui fait la force de ce pilote extraordinaire est assurément son incroyable caractère. Plus encore, sa capacité à performer dans tout type d'épreuves et de catégories le place au-dessus du lot. Durant cette décennie 70 qu'il mène sur tous les fronts, il a manqué d'être champion du monde de Formule 1, tout en remportant à 4 reprises les 24 heures du Mans. Sa carrière est digne des meilleurs scénarios de films de fiction. Mais ses succès inespérés ne tombent pas du ciel. Depuis toujours, X est animé par un incroyable carburant, celui de la persévérance, de la résilience. Sa devise ? Never give up, n'abandonne jamais. Même dans les situations les plus désespérées, un coup du sort favorable peut toujours intervenir et changer la donne. Et puis, il y a sa constance qui demeure malgré les années qui passent.
Je pense avoir très très peu changé, extrêmement peu changé, dans la mesure où je n'ai jamais fait l'automobile pour la publicité que je pourrais en tirer. J'ai fait de la course motocycliste comme je fais de l'automobile maintenant, avec le même plaisir, la même satisfaction.
La fin de sa carrière en Formule 1 en 1979 n'est donc pas vécue comme un coup d'arrêt. Durant cette période charnière, le pilote termine deux fois deuxième des 24 heures. Mais le mojo ne l'a pas quitté. Jackie est toujours au top de sa forme et il compte bien le prouver. En endurance, le Mans n'est pas la seule course de l'année. Les pilotes vivent un véritable championnat du monde qui s'articule autour de nombreuses épreuves. Jackie X, multiple vainqueur dans la Sarthe, n'est pas pour autant devenu champion du monde en endurance. Ça ne va pas durer. Toujours au volant d'une Porsche, il va continuer de marquer le début des années 80 de son empreinte. Cela passe d'abord par deux nouvelles victoires aux 24 heures, glanées en 1981 et 1982. Il devient alors le recordman absolu du nombre de victoires dans la Sarthe, avec 6 éditions remportées. La performance est majuscule. Et le record mettra des décennies à être battu. Mais plus encore, en 1982 et 1983, X parvient à atteindre l'un des objectifs qui lui manquait. Le Belge devient double champion du monde dans la catégorie endurance. En 1985, Le pilote prendra de nouveau le départ des 24 heures et se hissera sur la troisième marche du podium, continuant d'impressionner par sa longévité sur les circuits. Monsieur Le Mans quitte le monde des protos, le sentiment du devoir accompli. De nouvelles aventures s'offrent à lui. Dès le début des années 80, Jacques Hicks est tombé amoureux d'une nouvelle discipline, le rallye. Cette réorientation est aussi due au temps qui passe. Jacques comprend que ses capacités ne sont plus les mêmes et se retire avant d'être poussé dehors. C'est bien connu. Réussir sa sortie est plus compliqué encore que de gravir les échelons vers la gloire. Le pilote va tenter de remporter une autre course d'anthologie, le fameux Paris-Dakar. Nous sommes en 1983. Au volant de sa Mercedes, Jacques Hicks se débat avec la force des éléments. Sa nouvelle passion pour le rallye raid ne cesse de le stimuler. C'est la troisième année qu'il participe à l'épreuve reine de la catégorie. En 1981 et 1982, alors qu'il se battait encore sur les pistes internationales en endurance, il n'est pas parvenu à remporter la timbale. Un abandon pour sa première participation. Une cinquième place et sept victoires d'étape l'année dernière. Le Belge monte en puissance. Mais il n'empêche, le défi est immense. Cette course n'accorde aucune marge d'erreur. Pour remporter le Paris-Dakar, il faut se surpasser encore et encore. C'est d'autant plus le cas que son copilote est un acteur bien connu du public, Claude Brasseur. Depuis plusieurs années, le duo vit cette incroyable aventure sportive et humaine. Grands amis, ils ont monté le projet de toutes pièces, en regardant un reportage télé sur la beauté de l'épreuve en 1980. Depuis 1981, les voilà donc ensemble dans les galères et les beautés offertes par le Paris-Dakar. Faut pas croire, ici même le pilote professionnel est un débutant. Avant de se lancer, le Belge ne maîtrise pas la complexité du rallye raid. Brasseur, lui, a appris les rudiments de sa fonction chez un certain Jean Todd. Depuis lors, ils vivent de sacrées aventures. Malchanceux, lors de leurs deux premières éditions, les amis sentent que la chance pourrait bien être de leur côté en cette année 1983. Au compas et à la vue, Brasseur adapte parfaitement son guidage, permettant à X de se concentrer sur le seul pilotage. Les victoires d'étape s'enchaînent. Bientôt, le duo en obtient 5. Il se retrouve en tête du classement général. Les erreurs des premières participations semblent loin. Cette fois, la Mercedes brave le sable et les tempêtes et file vers la victoire. La veille, lors d'une étape plus difficile, une casse aurait pu tout mettre en péril. Mais alors que le duo est allé dormir, les mécanos se sont mis en action. Ils ont permis à l'espoir de renaître. Au petit matin, la voiture allemande est prête à repartir. Encore une fois, la solidarité, ici, s'exprime en plein. X et Brasseur ont compris que la victoire leur tend les bras. Ils vont réussir leur coup, obtenant au bout du bout un succès mémorable sur lequel personne n'aurait misé un sou au départ. C'est aussi cela, l'une des clés du succès de Jacques X. Sa force de caractère et sa détermination peuvent soulever des montagnes.
Pour moi, c'est fabuleux. Alors, je vous laisse imaginer ce que c'est pour Claude Brasseur.
Votre entente avec Claude Brasseur dans la voiture, il y a eu des mots ?
Ah oui, chaque année, il y a des mots mémorables. Chaque année, dans des villages, il descend en attendant le prochain taxi Bruce pour le rapatrier à l'étape. Cette année-ci, il ne s'est absolument rien passé, quitte à vous décevoir. Non, on s'est très très bien entendu. Je n'envisagerais d'ailleurs pas de refaire le Dakar avec quelqu'un d'autre que lui s'il désirait y participer. Je crois que maintenant, on arrive à vivre 20 jours ensemble, sans disputer, malgré la tension. De temps en temps, il y a un peu d'électricité. Mais contrairement aux autres années, on n'en vient pas aux mots durs et acides ou acerbes, qui sont ceux dus à la course et à la tension nerveuse.
Qu'est-ce qui a été le plus pénible cette année-ci ?
Ça a été... D'abord, c'est le Paris-Dakar que j'ai vécu moi. Tout le monde dit que c'est le plus dur. C'est le plus dur parce qu'il n'y a pas eu de journée de repos. On a roulé tous les jours à un rythme super infernal. Le plus dur, certainement, fatigue d'une part. On dort 4-5 heures par nuit. On souffre terriblement du froid la nuit. Il fait très très froid, spécialement en Algérie. La poussière, la chaleur le jour. Ce qui nous a fait le plus mal, à mon avis, c'est l'angoisse de tomber en panne, l'angoisse que les réparations qu'on a faites ne tiennent pas. Et l'inquiétude, surtout plus on arrive au bout de l'épreuve, cette inquiétude de ne pas terminer, et ça vous ronge.
Une fois lancé dans l'aventure du rallye, X ne va plus s'arrêter. Il va faire du Paris-Dakar son nouveau jardin. Le pilote participe à 15 éditions, dont 12 d'affilée entre 1981 et 1992. Citroën, Mercedes, Lada, Peugeot et même Porsche ou Toyota. Sa carrière dans la discipline est aussi impressionnante que le reste. Il est l'inspirateur de la transformation iconique des Porsche 911 et 959 en engins de rallye, ce qui offre à la marque allemande une de ses plus belles pages sportives. Ce qui au départ était une histoire de partage et d'amitié entre Brasseur et lui devient bien plus que cela au fil des ans. Partout où X passe, il marque les cœurs et les esprits. Plus encore qu'une course mythique, le Paris-Dakar permet de grandir sur le plan humain. Face à lui-même, le pilote se plaît à se surpasser. Le Belge y aura vécu des moments fous. En 1989, alors qu'il est en équipe avec Harry Vatanen chez Peugeot, le pilote est managé par Jean Todt. Le truculent chef d'équipe, conscient de la grande qualité de ses deux équipages, décide de jouer la victoire à pile ou face. X, en tête du classement, perd au jeu de hasard. Mais qu'à cela ne tienne. L'intérêt global prime. Jackie attend Vatanen sur la ligne lors de l'ultime étape. Il laisse son équipier gagner comme il s'y était engagé. L'anecdote est à l'image de la carrière du champion. Sensationnel.
Ça restera un grand moment de votre vie ?
Les Paris-Dakar, oui. Oui. On me pose souvent la question du Mans. J'ai eu tellement de privilèges dans ma vie au niveau sportif. J'ai fatalement des grands souvenirs et une grande reconnaissance pour tous ceux qui ont travaillé avec moi et qui m'ont amené, je dirais souvent, en première position. Mais le Paris-Dakar, ça c'est quelque chose d'exceptionnel.
Au dehors des baquets, le légendaire pilote est devenu directeur de course du Grand Prix de Monaco en Formule 1. L'incident de 1984, quand il décida de stopper le Grand Prix en cours pour des raisons de sécurité, est resté dans toutes les mémoires. En cause, le fait que Prost, en tête, se faisait rattraper par le tout jeune Ayrton Senna au moment du drapeau rouge. À la fin de la saison, le Français est sacré champion du monde pour un demi-point face à son rival brésilien. Le titre s'est-il joué sur la piste de Monaco ? Certains le pensent. L'histoire de la famille X sur les pistes se conjugue au pluriel. Jackie est le père de Vanina, qui fut une pilote professionnelle pleine de talent. Elle compte notamment 7 participations aux prestigieuses 24 heures du Mans. L'héritage du pilote belge est multiple. Aujourd'hui, il reste une figure importante de l'univers automobile, en sillonnant les bitumes du monde entier. Chacune de ses apparitions provoque un élan du public qui témoigne de son incroyable popularité. Ses activités sont nombreuses. Il maintient une relation privilégiée avec Porsche, dont il est l'ambassadeur mondial. La star prend également plaisir à vivre des événements consacrés aux voitures de collection, notamment le Mans Classique. Il est d'ailleurs titulaire du titre de citoyen d'honneur de la ville du Mans. Et pour la petite histoire, à 81 ans, il a réalisé encore quelques tours sur son circuit de prédilection au volant d'une hypercar bleu nuit avec une bande blanche. Les couleurs de son casque, décidément. Avec Jackie X, tout est une affaire de symboles. Voilà pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume d'Antoine Charpagne et à la collaboration des équipes de LDV Productions.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.